RCF.
Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus dans cette belle et sympathique émission. Comme chaque semaine, l'ambition d'Effervescence, c'est de vous faire briller les yeux, d'agiter vos neurones et de susciter votre curiosité. Une émission où cette semaine, on n'a peur de rien et même pas de vous parler dans un même élan de sacrilège grâce à une expo sur les relations entre l'État, le sacré et les religions et des émojis, ce langage symbolique qui ponctue les messages que l'on s'envoie depuis nos téléphones ou nos ordinateurs. Des émojis que l'on retrouve déjà, pour certains, au CIMES des musées. Mais pour nous, ils sont surtout au cœur d'une formidable bande dessinée. On recevra son auteur, un ancien chroniqueur d'Effervescence, David Groison. De l'histoire, de la philosophie, une pincée de droit et donc également du design. Voilà le menu d'Effervescence, avec bien sûr les coups de cœur de nos chroniqueuses et en prime de la bonne, voire de la très bonne musique. Et nos chroniqueuses cette semaine, eh bien, nous sommes à nouveau en formation réduite. La substantifique moelle de cette émission est là, avec vous Anne-Laure Fiol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des pages culture à l'hebdomadaire La Vie. Vous avez été au théâtre à Paris voir La Peur, une pièce de Stefan Zweig. Et puis au cinéma, vous avez vu un documentaire qui fait le portrait d'une infirmière à quelques jours de son départ à la retraite. Ça s'appelle Madame Hoffman. Agnès Manoretonil, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour les revues Études et Christus. Vous aussi, vous êtes allé voir un documentaire au cinéma, l'histoire d'un film disparu et dont la redécouverte est comme un trésor pour un peuple autochtone du Panama. Et Agnès, avec vous, on parlera également humanisme à l'occasion d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France intitulée « L'invention de la Renaissance » et c'est sous-titré « L'humaniste, le prince et l'artiste ». Alors, elles ont le cœur d'un humaniste, l'élégance du prince et la passion de l'artiste. Ce sont les deux chroniqueuses de notre semaine et elles sont à leur place, bien décidées à ne perdre aucune minute de cette émission. On peut donc commencer Effervescence.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
De loin, le monument est toujours aussi majestueux, mais de près, c'est une toute autre histoire. L'arc de triomphe, tagué comme le serait une simple façade de béton. Le symbole de Paris et de la nation transformé en mur de slogan. Les enquêteurs de la police judiciaire en sont consternés, tout comme les Parisiens et les touristes. Ils assistent médusés au premier nettoyage.
C'est vrai que c'est horrible de faire ce genre de choses.
On a quand même touché à notre patrimoine, le patrimoine de tout le monde. Aussi bien le patrimoine des riches que des pauvres, de l'histoire de France.
L'histoire retiendra surtout cette stupéfiante image. Les casseurs sur la terrasse panoramique de l'Arc de Triomphe. Sur leur passage, à l'intérieur du monument, ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient. Cette statue de Marianne a le crâne brisé, le symbole absolu de la République visé en pleine face. Sous l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu n'a pas été profanée. Certains gilets jaunes l'ont protégée. Ici, ils ont chanté la Marseillaise autour de la flamme du souvenir.
Et si je vous fais écouter cette archive du journal de 20h de France Télévisions, c'était le 2 décembre 2018, c'est parce que cette Marianne défigurée par les gilets jaunes sous l'Arc de Triomphe fait actuellement l'affiche d'une exposition présentée aux Archives nationales à Paris. Le titre de cette exposition, Sacrilège, et il est question d'État, de sacré et de relations aux religions. Alors c'est une exposition très sérieuse, on n'est pas dans le ludique ni le divertissement, mais il y avait du monde, j'ai trouvé, ce mercredi après-midi, alors qu'un soleil magnifique réchauffait la capitale, un public studieux qui déambule dans ces deux grandes salles, où la pénombre insiste presque au recueillement, mais surtout protège les documents de la lumière. On est là pour réfléchir à l'histoire de la nation française, à son présent, mais peut-être aussi à son avenir, avec cette question qui pour moi sous-tend cette exposition, qu'est-ce qui nous est commun, qu'est-ce qui nous lie. Alors dans l'archive que l'on vient d'écouter, on voit bien ce double mouvement de destruction de ce qui représente l'État, mais aussi de protection de ce qui symbolise notre unité. Alors cette Marianne défigurée, elle est très impressionnante. En fait, ce n'est pas vraiment une Marianne, mais c'est le génie de la guerre, si l'on en croit le titre donné par son créateur, le sculpteur François Rude. Marianne, génie de la guerre, encore une ambivalence qui donne à réfléchir. Comment, toutes les deux, avez-vous reçu cette Marianne défigurée qui fait l'affiche de cette exposition, Anne-Laure Filleul?
Bah, moi, je trouve que l'image est assez saisissante et résume bien. Alors, c'est pas qu'elle résume l'exposition, mais c'est qu'elle touche un point essentiel évoqué par l'exposition qui est le bien commun. Et donc, derrière, est-ce qu'il y a un sacré commun? Et donc, l'atteinte à ce sacré, à ce patrimoine collectif, à ce patrimoine commun. Et on voit dans l'exposition d'autres œuvres, et j'en parlerai tout à l'heure, qui font partie du patrimoine collectif et qui donc sont atteintes. Et donc pour moi, ça relève la question aussi de aujourd'hui dans notre démocratie, est-ce que on peut trouver un sacré commun versus, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le sacré subjectif.
Qu'est-ce que vous entendez par sacré subjectif ?
Eh bien, pendant des siècles, c'était la religion aussi qui nous réunissait. Et le sacré était assez évident là-dedans. Aujourd'hui, et c'est très bien, dans une république laïque, forcément, le sacré peut avoir une part subjective selon sa croyance.
Chacun se bricole son sacré ?
Oui, alors je ne sais pas si c'est bricole, mais en tout cas, des référentiels très différents.
Agnès Manoret-O'Neill, vous, cette affiche très impressionnante, comment vous l'avez reçue? Elle n'est peut-être pas assez exploitée dans l'exposition, je trouve.
Alors, ce qu'ils ont fait comme choix, c'est de ne l'expliquer qu'à la fin, de la mettre... On la prend en pleine figure, c'est vraiment le cas de le dire en entrant. C'est un peu le frontispice de l'exposition. Et puis, il faut traverser toute l'exposition pour la retrouver dans l'épilogue. Et je trouve que ça correspond très bien à l'intention des deux commissaires, qui est de faire réfléchir à cette image et au saisissement qu'elle provoque. C'est quand même un visage qui est en train de crier, donc de manifester sans doute un appel à la guerre, puisque le nom, c'est important, c'est le génie de la guerre. En fait, il est très peu question de Marianne. Or, tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Si cette représentation a été appelée le génie de la guerre, c'est peut-être pour ça qu'elle a suscité en retour une profanation. Je suis pas sûre que les gilets jaunes avaient cette intention de profanation, mais en tout cas l'exposition nous invite à prendre de la distance par rapport aux mots qu'on utilise, par rapport à nos représentations de ce qui est fédérateur ou non, et d'une certaine façon je trouve que c'est plutôt pas mal de nous forcer à cette distance. Cette question des noms, c'est très important. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'exposition et surtout dans la dernière partie à quel point, de fait, des mots comme république ou nation évoquaient en moi très peu la notion de sacré. C'est ce mouvement général qu'ils essayent de montrer d'un affaiblissement en fait de la notion de sacré dans l'État ou dans le rapport au pays et à son histoire, est vraiment un des problèmes qui fait aujourd'hui qu'on a du mal à faire société. Donc on en revient aux gilets jaunes. C'est très intéressant parce que l'épisode des gilets jaunes, c'était vraiment aussi le constat qu'on n'arrive plus à faire société, peut-être parce qu'on n'est plus unis par au moins un projet commun. Je dirais peut-être pas un sacré, mais en tout cas un projet commun.
Affaiblissement du sacré ou peut-être mutation du sacré qui était avant le commun entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel et qui maintenant n'appartient qu'au pouvoir religieux, qui s'affaiblit lui complètement et donc le politique essaye de le récupérer et le sacré est un outil de pouvoir, non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi j'ai l'impression que le fil rouge de cette exposition c'était, et ça m'a un peu gênée, le sacré comme outil de pouvoir.
Oui, effectivement.
Réduit à être un outil de pouvoir.
Alors, réduit, non, je dirais que c'est l'exposition et le lieu de l'exposition qui fait ça, c'est aux Archives nationales. Donc c'est le but des Archives nationales est de garder la mémoire de ce qui a fait la France par ces archives. Donc ça peut pas être une approche contemporaine. En fait, tout ce qui nous intéresse le plus et qui est à la fin de l'exposition, c'est-à-dire depuis l'histoire de la Marseillaise sifflée pendant un match de foot, je crois, ou la question du voile à l'école. En fait, on est passionné par ça. On en voudrait plus. Il y a une petite frustration, Mais le cœur de l'exposition, c'est vraiment de nous faire réfléchir à la construction très diverse, en fait, de la notion de sacré et les mutations tout au long de la période étudiée.
Anne-Laure Filleul, cette frustration, vous l'avez ressentie, vous aussi ?
Non, pas vraiment. Non, moi, j'ai pas été frustrée, mais parce que j'ai trouvé que l'exposition était très bien construite et donnait déjà suffisamment à réfléchir. J'ai trouvé que les panneaux, enfin les textes explicatifs étaient passionnants et très... tout en étant fouillés, ils étaient accessibles, alors que moi, je le confesse, hein, dans certaines expos, je trouve que les textes sont un peu abscons ou trop longs. Là, moi, j'avais hâte, à chaque étape, de retrouver un texte explicatif, parce que voilà, thématique, c'est à la fois thématique et chronologique. Voilà, donc moi, j'ai pas eu de sentiment de frustration. Après, je suis sortie de l'exposition. Alors, c'est pas de la frustration, c'est plus une envie de creuser encore plus ces questions qui sont quand même très complexes. Voilà, ça m'a donné envie de, voilà, d'approfondir, de réfléchir encore plus. Par rapport à ce que vous disiez sur le rapport du sacré au pouvoir, enfin là je réfléchis tout haut, mais je me demande si quand même il n'y a pas dans l'évolution du rapport au sacré. Là on voit très bien au début de l'exposition que le pouvoir est complètement imprégné de ce sacré avec des rois qui représentent Dieu, en fait. Et je me demande si là, dans l'évolution, on ne va pas vers un sacré très symbolique et qui va s'inscrire dans la pierre, enfin dans un patrimoine culturel, plus que dans une figure incarnée par un chef d'État.
Donc on est aux archives, donc vous l'avez dit, Agnès Manoir-Tonil, ce sont des documents anciens qui sont présentés ou des reproductions de documents anciens. Est-ce qu'il y a une ou deux pièces qui vous ont particulièrement interpellé, qui vous ont aidé à approfondir cette réflexion sur la notion de sacré ?
Alors je parlerai de deux objets. Le premier, c'est un des placards de 1534. Un placard, c'est une affiche. Et donc, un petit groupe de protestants mené par Guillaume Farel et puis Antoine Marcourt en particulier avait placardé sur un certain nombre de murs de Ville-de-France et jusque sur la chambre du roi,
la porte de la chambre du roi
à Blois, lieu sacré par excellence, un texte blasphématoire sur la messe comme lieu de sorcellerie, etc. Et en fait, cette affaire des placards est vraiment un moment de basculement où on va sortir d'une période de réflexion, notamment portée par les humanistes, sur la place que l'on accorde à la foi dans la conduite de la vie de la cité. Et évidemment, la personne du roi qui représente Dieu, j'allais dire, pose un problème pour les protestants. Luther en avait déjà parlé dans ses thèses en 1517. Et cette affaire des placards va servir d'occasion à François Ier, en fait, de mettre la main, d'une certaine façon, sur le sacré. Mais ce qui est intéressant, et je trouve que le petit cartel qui va avec l'explique bien, c'est que on n'est pas là pour dire ah, quel imbécile ce François Ier, il a mis la main sur le pouvoir. Non, il y a vraiment à ce moment-là deux mondes qui se confrontent, qui se confondent de façon très, très violente. Mais d'une certaine façon, François Ier porte avec lui une part de l'esprit de la nation et du pays. On ne peut pas imaginer que la totalité des sujets français étaient à ce moment-là tous protestants. Donc d'une certaine façon, ça nous montre ce qu'on vit aussi aujourd'hui avec une confrontation, c'est ce que disait Anne-Laure, une confrontation, mais alors qui s'est éparpillée de partout, entre différentes conceptions du sacré. Qu'est-ce qui est sacré ?
Alors moi, ce que je retiens aussi de cette affaire des placards, c'est que quelques années après, pour surveiller l'orthodoxie de tout ce qui est imprimé dans ce beau royaume de France, on va créer ce qui deviendra le dépôt légal qui oblige à déposer aux archives nationales, parce qu'il viendra les archives nationales, un exemplaire de toutes les publications. Ça vient de là, ça vient de ce placard sur la chambre du roi de François Ier. Je crois qu'il y a un autre objet. Alors là, on est presque dans l'anecdotique, Agnès,
mais
qui vous a plu.
Mais on n'est pas dans l'anecdotique,
non,
pas du
quand
tout.
Même, quand même.
Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Ce n'est pas un bout de papier, c'est un œil. c'est l'œil de Gambetta, qu'on connaît peut-être pour son œil de verre, mais en fait, il avait un vrai œil qu'il a longtemps gardé. Et puis, à l'occasion d'une opération où il a vraiment fallu enlever cet œil malade, le médecin qui l'a vu lui a dit « Vous savez, monsieur Gambetta, cet œil, moi, je pense qu'il faudrait le garder. Vous représentez pour la nation plus que quelqu'un. Gambetta, c'est un héros. D'une certaine façon, c'est presque un saint
laïque.
Et donc, on voit une anticipation de ce que pourrait être une relique républicaine. Donc, on est loin de l'anecdotique et du gore. On est dans la question de savoir si comment est-ce qu'on incarne un sacré républicain. Il faut bien l'incarner dans des gens, et pourquoi pas dans un œil. Mais la question est posée hein, dans la dernière partie de l'exposition à propos de l'offense faite au chef de l'État, de ce qui est arrivé au président Macron. Et c'est très intéressant, un sacré qui s'incarne pas, ça ne marche pas.
Un des derniers documents présentés, c'est un autocollant avec marqué « Casse-toi, pauvre con », pour lequel son auteur avait été condamné pour offense au président Nicolas Sarkozy. Anne-Laure Filliol, qu'est-ce que vous avez envie de retenir comme objet, vous, de cette exposition, comme image ou comme document ?
Mais en fait, il y a beaucoup de choses, mais à la fin de l'exposition, on voit deux activistes asperger de sauce tomate un Van Gogh à la National Gallery de Londres. On a tous en tête, et c'est pas les premières et ce seront pas les dernières, je pense, c'était en octobre 2022, on a tous en tête, on a vu aux infos, vidéos et photos. Mais moi, ça, c'est une image que je retiens parce qu'elle pose, d'après moi, la question aussi du sacré. Parce que beaucoup vous diront, mais non, mais tant ça va, il y a une vitre de verre qui permet de pas abîmer l'œuvre. Mais pour moi, c'est pas la question. Pour moi, la question, c'est la symbolique du geste que je trouve quand même violente. Il y a peut-être d'autres. Évidemment qu'il y a des combats écologistes à mener, mais est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est la meilleure méthode? Et pourquoi je me dis ça? Parce que c'est une œuvre qui est dans une galerie nationale et qui donc par définition, enfin, c'est pas qu'elle appartient à tous, mais c'est un patrimoine encore collectif. Je reviens à mon idée première. Et là, je trouve que c'est le sacré comme irrespect d'un patrimoine collectif, comme irrespect de l'artiste, parce que encore une fois, c'est pas évidemment que la toile n'est pas touchée, mais le geste même est très lourd.
Alors ces jeunes filles vous diront que le sacré est dans la nature et que c'est la nature qu'on défigure, que ces pétroliers, ces hommes, tout ça défigure. Agnès Manon et Tonil, vous voulez réagir?
Oui, en fait, c'est effectivement, c'est pour cette raison que cette toile-là a été abîmée. Je pense que c'est comme pour l'affaire des placards, et peut-être que l'exposition sert à ça aussi, c'est arriver à considérer que, d'une certaine façon, chaque sacré qui s'exprime, ou chaque demande de respect d'un sacré qui s'exprime, il faut commencer, comme dirait Saint-Ignace, enfin voilà, sauver la proposition du prochain. Pourquoi est-ce que, d'une certaine façon, c'est juste et légitime? Et à partir de là, on pourra établir effectivement si la façon de défendre ce qui est considéré comme sacré est légitime. Et comment est-ce que, malgré toutes ces conceptions très diverses du sacré, ne sont pas compatibles, comment est-ce qu'on va réussir à faire du commun, à refaire une société?
Alors Filliol, il y a quand même des images manquantes dans cette exposition.
Oui, par exemple... Pourquoi pas mettre Emmanuel Macron lors des élections quand il a été élu
président, dans la cour du Louvre,
tout
cérémonial.
Alors là, c'était quand même assez flagrant. Et puis les caricatures de Mahomet, évidemment. Et j'ai lu que en fait c'était une décision des Archives nationales que de pas les mettre. Il y a eu hésitation pour des raisons de sécurité.
Ouais. Et donc ils ont préféré montrer l'image plus consensuelle de la manifestation géante du 11 janvier 2015 au lendemain des attentats de Charlie. Vous comprenez, vous, ça, Agnès ?
Oui, je comprends très bien, parce que demander aux lycéens, demander à la génération des lycéens, beaucoup vont vous dire qu'ils ne comprennent pas ce droit qu'on se donne de montrer, de faire voir des images qui sont absolument offensantes. Il y a une distinction qui est faite entre les croyances et les croyants qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et justement, on parlait d'incarnation, en fait, les croyances, les religions s'incarnent dans des gens. C'est très difficile de séparer les deux. Et donc, les lycéens sont les premiers à dire cette conception de la laïcité où on distingue la croyance et les croyants, et où deux ont donc, on peut se moquer de la religion à condition qu'on ne se moque pas des gens, ça ne marche pas.
Vous êtes en train de nous dire que les générations ont changé?
Oui.
Depuis les attentats, aujourd'hui, là, ce n'est plus la même jeunesse.
Ce n'est plus la même jeunesse. Elle a une conception du respect qui peut nous paraître parfois exagérée. On a envie de dire, mais vous êtes trop sensible, on peut rien vous dire, on peut rien vous montrer. Mais je crois qu'on gagnerait à leur demander vraiment ce qu'ils en pensent et, encore une fois, ce qu'ils proposent pour malgré tout arriver à vivre ensemble. En tout cas, cette conception de la laïcité, je crois, ne leur convient plus, ne leur parle plus, ne leur permet pas à eux, en fait, d'imaginer la société dans laquelle ils vont vivre et être adultes et imaginer l'avenir et des projets et une façon d'être en harmonie.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette exposition au final ?
Qu'il faut aller la voir. Non, qu'elle est très très didactique, très très accessible, et que je dirais que oui, non, mais je rigole en disant qu'il fallait la voir, mais je crois que ça peut parler à tout citoyen et que la question est tellement brûlante aujourd'hui. Malheureusement, il y a encore des drames autour justement de cette question du sacré, de personnes qui sont tuées, etc. Que pour moi, c'est vraiment une exposition qui aurait un intérêt pour tous.
Agnès ?
Ah oui, c'est et puis j'allais dire, enfin je le redirai peut-être tout à l'heure, il faut qu'on mesure la chance qu'on a d'avoir accès comme ça si facilement. Là, vous n'avez pas dit, mais l'exposition est gratuite. Au trésor patrimonial qui nous permet de comprendre notre histoire. Et je me suis fait la même réflexion pour l'exposition dont je parlerai tout à l'heure. Ça, c'est le signe aussi qu'on est dans un pays en paix et qui va encore bien, puisqu'on peut voir tout ça.
On a alors évoqué les images manquantes. Moi, je trouve qu'il manquait une bande-son dans cette exposition. La question du sacrilège est quand même au cœur de la chanson, des chansonniers, de cette tradition. Je pense aussi à la Marseillaise de Serge Gainsbourg. Alors, on va pas l'écouter aux armes, etc., parce qu'on l'a déjà écouté. Vous pourrez écouter dans l'émission d'Effervescence consacrée à Gainsbourg. C'était en septembre. Puis j'ai pensé à Brassens, bien sûr. Le sacrilège, cette fois-ci, sacrilège envers les religions. Brassens qui, chez lui, avait quand même la chambre du curé. Vous relirez son histoire. Donc on va écouter Brassens, et bien sûr peut-être la chanson la plus sacrilège, c'est peut-être la prière de Georges Brassens. J'aurais voulu vous faire écouter une reprise de Georges Brassens, mais qui est encore plus sacrilège. Mais bon, on va écouter Brassens dans le texte et cette prière.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé, sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchirent ou succombent, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains. Par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
La prière de Georges Brassens sur RCF dans Effervescence et cette exposition, un sacrilège qui se tient actuellement au Musée des Archives de Paris. Si vous ne vous pouvez pas vous y rendre, il y a le catalogue qui est très complet, qui est publié aux éditions Gallimard, une coédition Gallimard Archives Nationales. Ça s'appelle Sacrilège.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Merci d'écouter Effervescence sur RCF. Cette semaine, je suis en compagnie d'Agnès Manoret-Onil et d'Anne-Laure Fignol. On va parler cinéma et même on va parler documentaire dans cette émission avec deux films qui viennent de sortir. Agnès Manoret-Onil, vous avez été voir un documentaire incroyable, Dieu est une femme. Tout commence par un film perdu. C'est ça, un film qui a été spolié par une banque, c'est ça cette histoire?
C'est exactement ça en fait, c'est deux films en un. Et le titre du film, Dieu est une femme, c'est d'abord le titre du documentaire de Pierre-Dominique Guesso, qui a été tourné en 1975 et qui, faute d'argent pour être produit, a effectivement été saisi par la banque. Donc c'est un film documentaire sur une peuplade indigène du Panama, les Kunas, qui ont participé évidemment à l'élaboration de ce film et auquel Dominique Guesso avait promis de montrer le film. Et ils ont attendu pendendant des années sans pouvoir voir ce film puisqu'il avait été saisi et qu'évidemment tout le monde se contrefichait de ce film et des Kunas. Et puis, il y a un personnage qui est très important dans le documentaire, qui est un poète, un universitaire Kuna, qui s'appelle Aristeides Turpana, qui va rechercher les bobines. Donc, c'est une recherche en deux temps. Le deuxième temps de cette recherche, c'est là qu'intervient le documentariste Andrés Perrault, qui nous offre un deuxième film qui s'appelle aussi Dieu est une femme. Mais attention, il faut le prendre cette fois-ci au deuxième ou troisième degré. Et qui va raconter comment lui a continué à lancer pour la deuxième fois la recherche de ce film et comment, en s'associant en fait avec deux jeunes cinéastes Kuna, il a pu montrer ce film 50 ans après à des gens qui étaient des personnages du premier documentaire.
Agnès, vous m'avez dit que ce film vous avait ému aux larmes.
Alors
pour l'instant, je vois que c'est passionnant, mais je vois pas où est l'émotion.
Oui, pour le moment, ça a l'air très intellectuel. En fait, c'est un documentaire sur la façon dont les autres nous voient et dont ils peuvent aussi nous priver en fait de notre image et de nous-mêmes. Parce que ce premier film, Dieu est une femme, dont on voit des extraits, il est très marqué par un certain regard qu'on pouvait avoir dans les années 70 sur les peuples indigènes. Guesso ne laisse pas la parole aux Kunas. Il les filme, non seulement il les filme sans les laisser parler, mais en plus, dans son commentaire en voix off, il dit des choses qui sont fausses et qu'il sait être fausses, notamment... il dit que cette peuplade, ce sont une société matriarcale. D'ailleurs, les rites d'initiation sont réservés aux femmes, donc la femme est sacrée, etc. Ce qu'on apprend, c'est que, bon, ce n'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que les Kunas se voient, et qu'ils lui ont dit, il a dit, ah oui, mais moi, j'arriverai jamais à vendre mon documentaire aux Occidentaux si je leur dis pas que la femme est sacrée chez vous. Donc, il met la main, en fait, sur leur identité, sur leur histoire. Or, ces images, c'est eux. Et ce qu'on sent, en fait, pendant tout le film, en attendant le moment de la projection, c'est comment ça a creusé en eux, cette recherche des bobines, le désir de se retrouver. Et en parallèle, on voit aussi les ravages de l'impérialisme nord-américain sur le Panama, l'exploitation minière qui les a privés de leurs terres, qui les a privés de l'exploitation de la terre, donc de leurs ressources, donc de leurs coutumes. Déjà ça, c'est très violent, c'est très bouleversant, ça fait pleurer. Mais l'apogée de tout ça, c'est le moment où, en particulier les femmes, se voient, notamment à l'occasion d'un rite d'initiation où une petite fille de 4 ans se fait couper les cheveux. Et donc, c'est maintenant une femme. Elle n'est pas revenue pendant 22 ans dans son village parce qu'elle habite à Panama City. Et là, assise avec sa sœur et sa mère, elle se revoit. C'est la première fois qu'elle se voit petite fille dans ce rite d'initiation qui est extrêmement fondamental pour elle parce qu'il l'inscrit dans sa lignée, dans son histoire. Et on voit que la vie en ville, comme une émigrée, l'a dépossédée d'elle-même. Et on voit à travers elle que tous les Kunas sont désireux de se dire « Mais en fait, nous ne sommes pas dans le regard des autres, nous pouvons nous regarder nous-mêmes. » Et le fait que André Spérou se soit associé en fait avec des cinéastes Kuna, deux jeunes d'une trentaine d'années, qui commentent le film de Guesso en faisant un autre à leur image, c'est vraiment bouleversant.
On écoute quelques notes de la bande-annonce.
Imagina, Pierre había escondido la copia original en un sótano en París.
Ese documento tiene que prevalecer a la eternidad, porque ahí fundamenta la dignidad del pueblo kuna.
Mer perder cuoye, ta goye, ta imaloye, ustu selle.
Los niños necesitan. Las comunidades necesitan.
Es como un desafío. Como ahora nosotros nos toca.
Voilà, Dieu est une femme et ce n'est pas une provocation, encore moins sacrilège. C'est un documentaire que l'on peut voir actuellement et qui est signé
André Spérou.
Voilà, autre documentaire qui est sorti tout juste ce mercredi. Alors cette fois-ci, on est bien en France, au cœur des problématiques sociétales de notre beau pays. C'est un documentaire qui s'appelle Madame Hoffman. Et Madame Hoffman, c'est une infirmière. Alors, je vous propose d'abord qu'on écoute peut-être un extrait de la bande-annonce.
Il faut savoir qu'une infirmière, elle tient 7 ans maximum sur les statistiques. 7 ans. J'ai tenu 40 ans. Il valait mieux que la carapace, elle soit dure. Je me dis que j'ai vécu des milliards de vies dans une vie. J'ai vu des choses que personne n'aura vues dans une vie. Et ça m'a complètement changée.
Et là, comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Là, ça va beaucoup mieux.
Toi, tu en as fait des heures sup à l'hôpital, hein ?
Et avec mon père qui t'aidait pas beaucoup.
Je me retrouve avec deux infirmiers, des fois qu'une aide-soignante au lieu d'en avoir deux.
J'ai plus de place.
Non, mais je sais jamais à l'avance. La température, elle se prend dès la première seconde où tu rentres dans le service.
Elle qui est encore en arrêt. Elle en arrêt.
Donc, je n'ai plus personne. Je le vois qu'elle est tout le temps dans notre dame.
Vous la voyez. Madame Hoffman, très très belle personne qu'on découvre. C'est un film hommage à toutes les infirmières, j'imagine.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est un film documentaire qui suit au plus près cette femme. On va l'appeler par son prénom, Sylvie. Et donc, Sylvie travaille depuis 40 ans à l'hôpital nord de Marseille et va bientôt s'autoriser à prendre sa retraite. Mais ce ne sera pas sans tension intérieure et extérieure, d'ailleurs. Et donc, le film débute avec le Covid. Donc, on est immergé dans cette période un peu folle. Je trouve qu'on n'a pas vite oublié, mais ça nous paraît quand même un peu dingue. voilà, de voir tous ces gens tous ces gens masqués et Sylvie est cadre infirmière à l'hôpital et elle est complètement submergée. On la voit passer des coups de fil à la chaîne parce qu'il n'y a plus de lit suffisant, il n'y a plus de blouse, il n'y a plus de masque. Elle jongle entre les services, les plannings s'appauvrissent de plus en plus à mesure que le personnel soignant est lui aussi touché par le Covid. Elle doit faire des tests tous les jours, enfin avec toute son équipe, voire plusieurs fois par jour. Enfin, c'est délirant et on la voit voilà complètement submergée et tentée de manœuvrer un navire qui est en train de couler. Et d'ailleurs, juste après, on la voit arriver chez le médecin parce que elle n'entend plus et donc elle s'inquiète pour sa santé. Et c'est clairement un symptôme de, alors je sais pas si c'est un burn-out, je ne suis pas médecin, donc je peux pas poser de diagnostic, mais de surmenage, de trop-plein. Et donc c'est comme si, d'ailleurs ça peut être psychosomatique, c'est comme si elle ne voulait plus entendre en fait les injonctions extérieures. Voilà. Et donc ce film documentaire qui est très beau, la montre à l'hôpital, mais aussi chez elle, dans sa vie privée en général, auprès de notamment de sa maman, qui elle aussi est une femme courage, qui a à peu près 85 ans, qui est atteinte d'un énième cancer et qui garde le sourire et une grande sagesse. Et là aussi, on voit une relation très belle entre une fille et sa mère, non pas vieillie, enfin si, j'allais dire non pas mourante, mais si vieillissante. Donc c'est vraiment sur le bout d'une table, dans une cuisine ou sur un banc, elles prennent le soleil et elles parlent. Et c'est pas du tout dénué de profondeur parce qu'elle parle justement de l'avancée dans l'âge, elle parle de la maladie, elle parle de la vie, de la mort, enfin de questions essentielles. Et donc on voit à la fois leur complicité, mais aussi un écart générationnel parce qu'elles ont pas du tout les mêmes la même manière finalement d'aborder la maladie. Mais vous verrez pourquoi. Je vais pas tout vous raconter. Je disais, on la voit dans sa vie privée, on la voit aussi auprès de sa fille. Sa fille qu'elle raconte avoir sauvée alors qu'elle était toute petite. En fait, Madame Hoffmann, Sylvie, n'a cessé de sauver des personnes, de veiller sur des gens. On la voit, puis après on retournera à l'hôpital, mais on la voit aussi dans cette thématique privée. Tous les 15 jours, elle rejoint son mari, son cher et tendre, dans les Alpes. Lui aussi malade. Il est malade du cœur. Elle prend soin de lui. Et c'est très beau parce que c'est plus que de la complicité, c'est leur tendresse, leur amour crève l'écran. Et pour Sylvie, mais c'est vraiment des bouffées d'oxygène. Donc on la voit dans le train, regarder par la vitre avec les montagnes qui apparaissent, et puis après vraiment se lever dans les bras de son mari. Donc comme je disais, oui, il habite dans les Alpes parce que il a des problèmes de santé, donc il doit être dans un environnement très sain. Tout ça pour dire quoi? Que Sylvie est très fatiguée par la vie, très passionnée par son travail. Et après, évidemment, et c'est quand même le cœur du film, on la suit à l'hôpital. Donc on la suit à l'hôpital tant auprès des patients que du personnel soignant, où elle est comme une maman. Il y a beaucoup d'infirmiers autour d'elle qui sont beaucoup plus jeunes. Donc elle les conseille, elle les coach, elle rigole aussi. La joie est très présente, malgré les thématiques qui percent, qui sont un manque de personnel, des salaires mais dérisoires à l'hôpital. Un système de santé qu'on connaît et qui n'est pas en bonne santé. Voilà, donc c'est un très beau documentaire. Sylvie est très très authentique, très touchante et très courageuse.
Et le nom du réalisateur ou de la réalisatrice?
Sébastien Lifshitz.
Voilà, ça s'appelle Madame Hoffmann, vous avez compris, un très beau portrait à ne pas manquer. Allez, quelques notes de Yael Naïm, Lettre à France, extrait d'un hommage à Paul Maref, un album qui s'appelle Il était une fois Paul Maref.
Days you feel so far from me. land hidden in a sleep, a law I must have dreamed. And you who set fires in my heart, some more lighting through a spark, lies silent in the dark.
Voilà, Lettre à France, signée Yael Naïm, vous avez reconnu la chanson de Paul Naref.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Anne-Laure, vous êtes allée au théâtre. Alors, c'est une pièce avec un mari cocu, une femme, un amant, des portes qui claquent, mais ce n'est pas du boulevard.
Non, c'est pas du boulevard, c'est pas un vaudeville, Stéphanie. Et pourquoi? Parce que c'est du Stefan Zweig. Donc ça peut pas être du boulevard. Donc cette pièce, c'est une adaptation de la nouvelle très connue de l'auteur viennois et qu'on sait mettre dans l'analyse des sentiments humains, comme on sait si complexe. Alors, tout commence par une scène de petit-déjeuner. Nous sommes à Vienne au début du siècle et sur scène, on voit Irène qui gesticule autour de son mari, lequel a la tête complètement plongée dans son travail. Et donc ce mari est avocat pénaliste et tout simplement, il n'a pas le temps de répondre aux sollicitations de sa femme. La peinture, c'est celle d'un couple bourgeois, apparemment heureux, malgré tout, malgré ce manque de communication apparent. Et donc un couple bourgeois cochant toutes les cases de la réussite sociale. Mais évidemment, tout est question d'apparence. Car Irène, pimpante mère au foyer, s'ennuie ferme. Et face à un époux qui la délaisse. Alors, à défaut d'épanouissement conjugal, cette sorte de Madame Bovary va faire le choix de la tromperie. Elle entretient une relation avec Édouard, un musicien auprès duquel elle trouve évidemment écoute et réconfort. Jusqu'au jour où, alors qu'elle sort de chez Édouard, de chez son amant, elle tombe nez à nez avec une femme, hystérique sur les bords, qui l'interpelle et qui prétend, tenez-vous bien, être la petite amie d'Edouard, donc elle-même être liée à l'amant d'Irène. Et cette femme qui est magistralement campée par Ophélie Marceau est assez machiavélique et instaure un chantage. D'accord, elle va se taire, garder le silence, mais Irène va devoir lui donner en échange de l'argent. Dès lors, Irène va s'enliser dans la cascade infernale du mensonge, car prête à tout pour que son mari n'apprenne pas la vérité, et va sombrer par la force des choses dans la peur incessante d'être démasquée. On est loin du vaudeville, donc, et cette pièce dépeint de façon très subtile les méandres de la psyché humaine, presque à la façon d'un thriller hitchcockien.
D'ailleurs, le titre, c'est « La peur ».
Le titre, c'est La peur, et c'est, ça dégouline, ça transpire de peur pendant 1h15. C'est pas très long, ce qui est bien d'ailleurs. Et donc, cette pièce traite de la culpabilité, de la quête de la vérité, du mensonge, des hallucinations, de l'obsession frisant la folie. Toutes ces thématiques que Stefan Zweig traite si bien. Et je dirais, pour terminer, pourquoi cette pièce est bonne? Parce que les comédiens sont excellents, ils incarnent leur rôle à la perfection, jusqu'au final, qui est magistral, mais j'en dirai pas plus.
Voilà, ça se passe au Théâtre de la Scala à Paris, ça se joue jusqu'à la fin du mois de mai.
Jusqu'au 10 mai.
Voilà. Et donc, ça s'appelle « La peur ». Il me couronne, Agnès Manoret-O'Neill, c'est vous qui m'avez soufflé cette introduction musicale pour nous embarquer à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et entrer dans une exposition sur l'invention de la Renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Là, on vient d'écouter « Il est bel et bon, Commère », c'est une chanson de Pierre Passereau, qui a été beaucoup chantée à Paris dans les années 1530 et après, et puis aussi beaucoup dans les chorales amateurs d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit clin d'œil pour les auditeurs, parce que je pense que nombreux sont ceux qui vont reconnaître une chanson à quatre voix qui n'est pas évidente à chanter avec des onomatopées et qui est le dialogue entre deux femmes qui se disent à quel point leur mari est super, il fait le ménage, il va nourrir les poules, voilà, c'est un bon mari. Alors c'est un petit clin d'œil un peu plus léger, un peu plus populaire, avant de vous parler d'une exposition qui est quand même un peu savante et sérieuse, l'invention de l'humanisme, donc sur le site Richelieu de la BNF. Mais pour reprendre le jingle de votre émission, Stéphanie, ça fait briller les yeux. Parce que ce qui est central dans cette exposition, c'est le livre. Parce que l'humanisme s'invente dans les bibliothèques de quelques hommes passionnés d'études, comme Pétrarque, qui a une place très importante dans l'exposition. Il y a une salle entière qui lui est consacrée. Et quand je dis le livre, il ne faut pas penser au livre que vous avez sur le rayonnage de vos bibliothèques et qui n'ont, j'allais dire, aucune valeur d'objet. Les livres, dans les années, donc là on parle du 15e et encore du début du 16e siècle, ce sont des objets magnifiques qui concentrent tout le génie humain. Et c'est vraiment ça le sens de l'humanisme, c'est découvrir à quel point les facultés humaines, alors j'allais dire non seulement intellectuelles, mais aussi artisanales, peuvent être articulées, mises au service en fait de la compréhension du monde. Et donc, parmi les objets qui sont présentés, on a à la fois de très beaux livres, et tout est beau, la relure, le papier, l'écriture, les couleurs. On a aussi des objets très représentatifs de cet esprit de l'humanisme. Alors moi, j'ai les yeux qui brillaient devant le globe des voyages de Magellan, qui est un globe qui doit faire une vingtaine de centimètres de diamètre, en cuivre doré, et qui représente les voyages de Magellan. Donc on voit l'Amérique du Nord telle qu'on la connaissait à ce moment-là, le littoral qui est dessiné de façon extrêmement précise. C'est un objet magnifique. Ou bien on voit aussi une partie du studiolo d'un duc italien. Donc le studiolo, le petit lieu d'études, c'est un peu le cabinet de travail de l'humaniste, où il va y avoir à la fois des livres, mais aussi tous les instruments de la connaissance, des objets techniques. Et donc ce duc italien avait fait représenter sur des marqueteries boisées l'idéal du savoir, et donc on voit un compas, un globe, des livres. C'est d'un raffinement et d'une finesse qui sont vraiment enchanteurs. Alors moi, ce qui m'a énormément plu dans cette exposition, c'est de retrouver ce qui m'avait attiré vers la Renaissance et qui fait que j'ai fait une partie de mes études dessus, c'est ce goût de l'étude. Et de l'effort qu'on fait pour s'améliorer, et de se dire que c'est là que se posent les fondements aussi de ce qu'a été notre société depuis. Alors on critique énormément, on a l'impression que depuis le XVIe siècle, ça y est, à cause de cet esprit rationnel et scientifique qui s'est développé, on a détruit le monde autour de nous. Mais là, on retourne en fait au cœur de l'humanisme. Alors certes, on met l'homme au centre, mais l'homme dans sa capacité à réfléchir sur lui-même, à se mettre au service de la beauté du monde et de l'esprit. Et je trouve que c'est assez remuant de revenir à ça et de dire non, on ne va pas tout jeter de notre héritage occidental. Simplement, il faut revenir à sa source en méditant sur la vie d'un Pétrarque, par exemple, qui est un type absolument incroyable.
Voilà, ça s'appelle l'invention de la Renaissance. C'est à la Bibliothèque nationale de France.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Et comme promis, dans cette émission Effervescence, nous évoquons maintenant la folie emoji. Vous savez, ces petits dessins qui ponctuent nos textos et nos messages numériques. Pour cela, nous retrouvons un ancien chroniqueur d'Effervescence, David Groison, qui vient de publier sa première bande dessinée. C'est chez Bayard Graphique. Ça s'appelle La Révolution Emoji. David, bonjour. Et David, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on commence cette histoire au Musée d'Art Moderne de New York.
Ouais, vous avez raison. Parce qu'au Musée d'Art Moderne de New York, entre un Picasso et un Van Gogh, sont exposés les 192 premiers essais qui ont été dessinés par un Japonais et qui, dans la fin des années 90, a dessiné ce premier set d'émojis. Là où, en fait, aujourd'hui, on en compte plusieurs milliers, mais c'est lui qui a dessiné ses premiers émojis. Et alors, la BD, elle commence, c'est une enquête, et donc on rencontre tous les gens qui mènent et qui ont mené cette révolution des émojis. Et ça commence avec lui au Japon, à Tokyo, et nous ramène à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celle où il y avait comme technologie les beepers, les pagers, c'était des petits appareils électroniques avant les téléphones, où on s'envoyait un numéro à rappeler. Les médecins et les gens importants qui avaient ça. Et du coup, les jeunes l'ont détourné en disant qu'il pouvait y rester quelques espaces de mémoire pour rajouter des petits dessins. Alors du coup, les constructeurs ont commencé à inventer des émojis en mettant d'abord la météo, quelques émotions, et c'est évidemment les émotions et le cœur qui a marché, qui a cartonné et qui a donné l'essor aux émojis.
Et puis Apple s'est emparé de tout ça pour son nouvel iPhone.
Oui, alors là, c'est une histoire assez dingue aussi. Angela Guzman, qui était à l'époque designeuse et stagiaire, et elle a eu, c'était son stage d'été, elle avait un été pour dessiner les 300-400 premiers emojis. Alors ça, c'est vraiment ceux qu'on utilise tous les jours. C'est les visages qui sourient, c'est les cœurs, c'est les... Et elle, du coup, elle connaissait pas les emojis, elle en avait jamais entendu parler. Elle a ça à dessiner en un été. À la vitesse grand V, il faut en faire deux, trois par jour. Et donc, elle nous raconte cette aventure, comment elle a fait pour les inventer, pour les dessiner. Et ce qui est fou, c'est que comme c'était un stage, et ben voilà, elle a touché une indemnité de stage et zéro royalty sur tous ces emojis qui sont devenus depuis des coussins, des stickers, des affiches, voilà, qu'on retrouve absolument partout.
Ces emojis, ils sont partout. On les utilise sans peut-être même y faire attention, mais c'est avant tout un travail artistique. C'est important de le dire.
Bah, du coup, on a voulu avec Paul Rey, le dessinateur. Du coup, c'est vraiment pas un dictionnaire des emojis. C'est vraiment une enquête avec tous les hommes, les femmes qui ont travaillé sur ces emojis et donc aussi sur leur racine visuelle, en disant qu'effectivement, si on est au Japon, c'est pas pour rien parce qu'on y retrouve des traces du manga, à la fois dans l'emphase, c'est-à-dire que quand on pleure des torrents de larmes, quand on rit avec des gouttes d'eau qui sortent des yeux en diagonale, quand on est un peu gêné, on a des gouttes de sueur visuelles qui sortent sur le coin droit de nos têtes. Et puis il y a aussi la trace de l'écriture japonaise, qui elle-même, cette calligraphie, des fois les lettres symbolisent des éléments et à un moment de la bande dessinée de l'enquête on retrouve aussi un égyptologue qui va nous faire le lien entre les hiéroglyphes et les emojis en se disant qu'au fond notre alphabet tel qu'on le connaît ça nous semble évident que en fait les lettres on oublie que ce sont aussi des dessins et qu'il y a eu d'autres types d'alphabets dans l'histoire de l'humanité et que les emojis ont certainement quelque part à voir avec les hiéroglyphes.
Est-ce que ça veut dire que les emojis, c'est une forme de langage ?
Alors, c'est une forme de langage. On a aussi une linguiste qui nous aide à décrypter et on dit est-ce que c'est un mot ? Parce qu'il y a eu un emoji, l'emoji mort de rire, là, avec les gouttes, les larmes de rire qui sortent des yeux, qui avait été élu mot de l'année par l'Oxford Dictionary en 2015. Et elle dit non, c'est surtout pas un mot en fait, c'est au fond plutôt une ponctuation expressive, c'est en tout cas ce qui traduit tout le paraverbal, nos gestes, tout ce qui dans les conversations de tous les jours en fait, les gestes, le regard, ce qu'on arrive à décrypter dans les postures, ce qu'on arrive à décrypter dans l'attitude de la personne avec qui on échange, et ben dans nos échanges électroniques effectivement c'est très compliqué de pas avoir ça. Et donc, on utilise les emojis, bah, soit pour dire qu'on rigole, soit pour dire à quel point ce que dit l'autre est intéressant, ou au contraire, essayer de rajouter un peu d'ironie, un petit peu de distance, etc. Et donc, ces emojis, ils sont bien pratiques pour compléter le langage. Ils sont pas un langage en soi, mais pour accompagner et pour rendre nos conversations les plus fluides et les plus naturelles possibles quand ils sont sur par texto, par email, par tous ces circuits électroniques, ils sont très importants.
David, qu'est-ce que ça nous dit de notre façon de communiquer ces emojis ?
Ben, ça nous dit que pendant des années, quand on communiquait par écrit, on communiquait par lettre. Alors, au fond, on était presque proche d'un monologue, c'est-à-dire on écrivait notre lettre et puis 3 jours après, la personne la recevait, pouvait la lire, réfléchir à sa réponse, etc. Là, on est dans des conversations extrêmement instantanées, dans un écrit instantané. Et donc, c'est vrai que la place que ça a pris dans nos vies a nécessité d'inventer des nouveaux codes, d'inventer des nouvelles façons de faire. Et comme tous les codes et toutes les façons de faire, souvent, on ne prend pas le temps de s'interroger dessus, on ne prend pas le temps d'y réfléchir, on ne prend pas le temps de se dire d'où viennent ces images, à quoi sert-il, qui décide aujourd'hui qu'on a le droit d'avoir un emoji sushi et pas un emoji raclette, ou comme l'héroïne de la bande dessinée de la révolution emoji, elle se dit mais comment ça se fait qu'on ait une centrale nucléaire, un emoji pompe à essence, un emoji pétrole et pas d'éolienne. Et donc il y a aussi toutes ces questions-là qui sont intéressantes à se poser d'un point de vue usager, de citoyen et par curiosité aussi artistique, vous avez raison.
David, moi ce que j'ai découvert, c'est que aussi ces emojis, ils étaient le reflet de nos sociétés, de nos préoccupations, de cette société mondialisée. Et j'ai découvert qu'il y avait un emoji homme enceinte et un emoji une jeune femme voilée.
Oui, au fond, ces emojis, ils cristallisent l'époque. Et sur ces images-là, il peut y avoir, je pense que vous ne l'avez pas découvert, parce qu'en fait, on entend assez régulièrement cette petite musique. Chaque année, il y a des nouveaux émojis qui apparaissent. Et chaque année, il y a au fond des débats sur dire est-ce qu'il y a eu le pistolet qui était un colt en acier qui est devenu un pistolet à eau pour lutter un peu contre les armes à feu et le port des armes à feu aux États-Unis. Il y a eu un scandale hyper rigolo. Il y a eu des véganes, enfin rigolo. Des véganes qui se sont mobilisés pour dire qu'il y avait un œuf dans le dessin de la salade. Ils disaient, mais si je mange la salade, c'est pas pour manger un œuf, etc. Et Google a changé le design, le dessin pour enlever la rondelle d'œuf. Donc, c'est vrai que tous ces dessins-là, ils sont polémiques, ils permettent de débattre. Et ce qui est intéressant pour moi, me semble-t-il, c'est de se dire, au fond, est-ce qu'on lutte contre ces dessins parce que s'il n'y avait pas la réalité qui décrivent n'existerait pas, ou est-ce qu'au contraire, ben, on en a besoin finalement, une jeune femme voilée, on en a besoin qu'on en soit partisan, ou si on y est opposé et qu'on veut soutenir les femmes iraniennes qui luttent contre le port du voile, et ben, d'avoir un petit dessin pour le dire, c'est utile aussi. Et donc c'est vrai que ces questions-là de représentation, elles sont complexes, compliquées, et moi, effectivement, elles me passionnent à travailler.
Merci David. La révolution emoji, c'est donc signé David Groison et Paul Ray et c'est publié chez Bayard Graphique. C'est ainsi que se termine cette émission Effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Merci aux chroniqueuses Agnès Manoret-Tonil et Anne-Laure Filliol. Merci à Pierre-Henri Paget et comme chaque semaine, je dépose une citation dans vos oreilles. La pause, elle aussi, fait partie de la musique et c'est signé Stéphane Zweig. Bon week-end à tous.